Je voudrais que nous nous préparions pour Noël. On va voir Jean chapitre 17, où nous voyons ici exprimé le désir, le plus grand désir de Jésus. Et rappelons-nous que Jean chapitre 17, c'est la prière la plus longue que Jésus a jamais priée, qui est écrite. C'est une prière que Jésus manifeste les plus grands désirs de son cœur. Alors, que serait pour vous, quel est le désir le plus grand que tu as dans votre tête? Quel est le désir que vous aimeriez avoir accompli plus que toute autre chose? Et deuxièmement, quel prix êtes-vous prêt à payer pour avoir accompli ce désir? Chacun de nous, nous avons des ambitions, nous avons des désirs, nous avons des idées dans notre tête que j'aimerais bien faire cela. Et il y a certaines qui vont réussir. Leur désir, c'est de gagner 1 million avant d'avoir 30 ans. Et avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de diligence, avec pas mal de souffrances même, avec pas mal de privations, parce que le désir est si fort, ils vont terminer par être un milliardaire à 29 ans. Ce n'est pas peut-être votre but, mais vous avez quand même une ambition, un peu vague, peut-être. Mais le fait que vous êtes ici, je pense aux étudiants, vous n'êtes pas venus pour sacrifier votre temps, pour sacrifier de l'argent, pour sacrifier la présence de vos amis, de votre famille. Vous n'êtes pas venus ici juste pour passer du temps. Vous avez une idée de votre avenir nécessaire, qui nécessite certaines études, certaines épreuves, certains examens, brûler la bougie depuis 2 heures du matin, parce que vous aurez un contrôle demain. C'est une ambition. Quelle est la limite où vous direz, je suis prêt à payer jusqu'ici, mais pas plus loin. Et il y a une limite. En fin de compte, le prix que vous êtes prêt à payer peut sembler être un peu grand. Mais vous ne serez pas prêt à aller jusqu'au bout que le Seigneur était prêt d'aller pour accomplir son ambition, pour accomplir son désir exprimé dans ce verset. Jean chapitre 17. Jésus arrive à la fin de la prière et ce verset résume tout ce qu'il venait de dire. C'est un résumé avec les 2 autres qui suivent de ce que Jésus dit. Il dit, Père, je veux que là où je suis, je veux que là où je suis, où est-il? Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Je veux que là où tu suis, où je suis, où est-il? C'est ça le verset que je viens de mettre sur l'écran. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Au moins 7 fois, dans ce chapitre, nous voyons ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné. Je prie pour ce que tu m'as donné. Je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi. Annie et moi sont allés à Rockford, Illinois, aux États-Unis, dernièrement. Dimanche dernier, nous étions dans le culte là-bas. Franchement, la ville de Rockford, Illinois, n'a aucun intérêt pour nous, sauf pour le fait que nous avons des bien-aimés qui y habitent. Nous avons des amis, et nous, surtout, nous avons la famille. Et surtout, la semaine dernière, on avait tous nos 5 enfants, avec les 4 épouses et époux, avec les 12 petits-enfants. Rockford était pour nous la ville la plus importante dans les États-Unis. Et pourtant, c'est une ville au nord de Chicago. Quand on est loin de Rockford, on ne dit pas Rockford, on dit Chicago. Parce que personne, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Rockford, ils connaissent que Chicago. Mais Rockford, c'était important pour nous. Pour la seule raison que tous nos enfants, avec leurs époux, avec nos petits-enfants, on était là à cause d'eux. Si eux, ils se transplantent, ce qui c'était le cas cette semaine, sauf pour Paul et sa famille, Rockford n'a plus d'importance pour nous. Jésus dit, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. C'est où ça? Vous connaissez ce verset. Lorsque je m'en serai allé, il avait dit ceci 1 ou 2 heures avant, ce qui veut dire après, dans la chambre haute, avec ses disciples qui tremblaient de crainte par ce qui sortait de sa bouche. Ils ne comprenaient rien. Il dit, n'aie pas peur, je m'en vais pour que je vous prépare une place, mais je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Qui c'est dans ce moment le plus joyeux? Qui c'est le plus joyeux quand Jésus dit, je vous prendrai avec moi? Pour revenir à ce que nous avons dit tout à l'heure, quel prix, qu'est-ce que c'est la motivation qui poussait Jésus de ne pas arrêter, de persévérer, sachant exactement ce qui lui arriverait? Je vais vous montrer un verset que je n'ai pas mis sur l'écran, mais en Hébreux chapitre 12, verset 2, nous lisons ce qui a motivé Jésus. Et ça, c'était verset 2 de chapitre 12 de Hébreux. Ayant les regards sur Jésus qui suscitait la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Pourquoi est-ce que Jésus a souffert la croix? Pourquoi est-ce qu'il a méprisé l'ignominie? Parce qu'il voulait que vous soyez avec lui. Parce qu'il voulait être avec vous. Une ambition si puissante qu'il allait jusqu'au bout de tout ce qui était nécessaire pour assurer que vous soyez avec lui et qu'il soit avec vous. Je parle à ceux qui ont été donnés au Seigneur par Dieu le Père, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Un livre a été pris, était prêt à payer un certain prix, jusqu'à un certain montant. Et il a pourvu des billets, pas trop chers, sinon on aurait dû annuler notre visite à Rockford, Illinois. Mais il a prévu cela et ça nous a coûté un peu cher, mais ça valait la peine. Parce que nous étions avec ce que nous avons beaucoup aimé, ce que nous continuons à aimer. On est toujours proche, on peut toujours voir sur Skype, on peut parler, mais c'est pas la même chose d'être ensemble. Jésus était allé, mais j'ai du mal quand même à comprendre la joie devant lui qui poussait le Seigneur de persévérer et de ne pas arrêter, c'est pour qu'il soit avec nous. Il a voulu être avec nous. Où est-il? Jean 1, 18, dans le prologue de Jean, dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Le Fils unique, par contre, qui est dans le sein du Père. C'est où le sein du Père? C'est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais, heureusement, il y avait quelqu'un qui descendait, qui était capable de dévoiler la personne de Dieu parce qu'il était dans le sein de Dieu. Être avec Dieu, c'est le ciel. Je demande combien de vous voudraient aller au ciel. Pourquoi voulez-vous aller au ciel? J'ai vu beaucoup de gens à travers les années qui veulent aller au ciel, et rarement est-ce qu'ils me disent parce que j'ai l'impatience de voir face à face Jésus. Je veux voir ma grand-mère, mon grand-père, ou mes parents, ou je veux être libéré de toute douleur. Beaucoup de raisons pour que des gens veulent aller au ciel. Ils imaginent une amplification des plaisirs qu'ils connaissent ici, légitimes, des joies qu'ils connaissent ici, correctes, la vie qui est belle, la belle vie, ils aiment ça, ils proposent ça pour l'avenir. C'est un Disneyland spirituel éternel pour eux. Ce n'est pas ce que Jésus dans sa tête. Être avec Dieu, avec ce que Dieu lui avait donné, était son suprême désir. Et j'aurais pu employer beaucoup de versets, mais juste quelques versets, parce que pendant ce mois, nous ne devrions pas simplement regarder le premier arrivée de Jésus sur la planète, mais il va revenir dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et encore une fois, qui est le plus intéressé que nous soyons ensemble, le Seigneur ou vous? Et la réponse est le Seigneur. Le jour arrivera où le désir sera égalisé, et c'est ça pour que le Seigneur est en train de prier dans ce passage que nous verrons. Mais il veut être avec vous beaucoup plus que vous voulez être avec lui. Et nous prouvons cela, n'est-ce pas, dans notre style de vie de tous les jours. Les choses qui arrêtent notre attention, les choses qui nous détournent de penser, de réfléchir sur Dieu. Jean chapitre 13, Simon-Pierre dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Et Jésus répond, « Pierre, tu peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Quand Jésus disait cela, et encore, c'est la nuit avant sa crucifixion. Sachez que à partir de Jean chapitre 13 jusqu'à la fin, tout cela se passe le jour avant et le jour de la crucifixion de Jésus. Donc ça, c'est la nuit avant. Jésus dit, je m'en vais. Où vas-tu? Oh Pierre, je dis avec joie. Pourquoi il a dit avec joie? C'est ça l'impulsion qui motivait Jésus jusqu'à la fin, la joie qui était devant lui. Hébreux chapitre 12, verset 2, la joie qui était devant lui d'être avec Pierre d'être avec Jean, d'être avec ses disciples, d'être avec ceux qui allaient suivre, dans le chapitre 17, verset 20 plus tard, il voulait être, Jésus veut être avec eux. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Cette idée m'est venue à l'esprit quand je suis tombé sur ce verset. Quand Jésus était un être humain, un criminel entre deux autres criminels, sur trois croix, un de ces criminels dit au criminel au milieu, ô Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu entres dans ton royaume. Et nous disons ce que Jésus disait, presque avec une certaine légèreté. Jésus répond aujourd'hui, tu seras, et j'ai souligné, avec moi. En ce moment, le cœur de Jésus sautait de joie, une joie qu'il a soutenue à travers toutes ses expériences avant la crucifixion. Jésus était un homme de souffrance. Depuis sa naissance, il était mis à l'écart. Pendant toute sa vie, Jésus était méprisé, maltraité, accusé, soupçonné. Mais la chose au-dessus de tout, je vais vers l'accomplissement de la volonté de mon Père, où je serai avec mon Père et avec ceux que mon Père m'a donné, on sera tous ensemble pareils. Et ça, c'est quelque chose qui motivait Jésus. Et sur la croix du calvaire, Jésus tourne vers cette personne, et quand il disait les mots « avec moi », sans doute, la joie sautait pendant quelques instants, il a oublié la douleur qu'il avait en lui, parce que sur cette croix, maintenant, ce criminel, il a le privilège de lui, il a la joie de lui donner la promesse. Tu seras avec moi. Jésus est obsédé avec ces deux mots. Et c'est pour cela que nous célébrons l'incarnation, que nous célébrons cette saison. Celui qui vaincra, disait ce même Jésus en Apocalypse futur. Le petit homme marginalisé de Nazareth, qui portait une robe avec des sandales, et maintenant le lion, l'agneau avec des yeux qui brûlent, le juge le plus puissant sur toute la terre, et dit, ce qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Avec moi, avec mon Père. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, sont devant le trône de Dieu, qui le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Dressera sa tente, c'est une parler métaphorique. Il mettrait son abri, lieu d'habitation, sur ces personnes pour qui il a donné sa vie. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons à travers, comme à travers un miroir. Mais Dieu est plus intéressé que nous encore. Il attend le moment où nous, face à face, pouvons vraiment voir sa personne en étant avec lui. Il y a encore trois versets. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Puis je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendais du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
Mais j'ai dit, et regardez encore en chapitre 17 dans vos Bibles, que j'espère que vous les avez ouvert en verset 24. Je veux qu'il soit avec moi. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. Mais ce n'est pas que ça qu'il veut. Il ne veut pas qu'il soit là simplement pour être là. Il veut que les siens voient sa gloire. Voyez-vous ça, une deuxième chose? Je veux qu'il soit avec moi, mais pourquoi est-ce que je veux qu'il soit avec moi? Je veux qu'il soit avec moi afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé. Il y a beaucoup de versets aussi qu'on pourrait utiliser. Je n'ai choisi que plusieurs. Et même un verset qu'on avait considéré il y a quelques semaines, nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Pourquoi lisons-nous la Bible? Pourquoi lisez-vous la Bible? Voilà la raison qui devrait être notre objectif, pour contempler la gloire du Seigneur. Voilà la base de notre réflexion sur la personne de Jésus-Christ. On peut inventer un Dieu. Tout le monde croit dans un certain Dieu, dans leur fantaisie. Mais on ne peut pas contempler avec une petite finesse la véracité, la vraie nouvelle de la personne de Dieu sans ce livre. Il n'y a que ici où Dieu se révèle, en mots que nous pouvons comprendre. C'est pour cela que nous devrions lire régulièrement notre Bible et que je propose que pendant 25 jours, nous faisons une lecture dans le silence. Sans la télévision, sans la radio, une trentaine de minutes, une vingtaine même, aucune timbrie, sauf la parole de Dieu qui prépare nos cœurs pour recevoir Jésus. Nous contemplons le Seigneur, et en le faisant, nous sommes métamorphosés en une même image, de gloire en gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit, l'excellence de Dieu contemplée à cause de la parole. Nous voyons à travers un miroir. Mais alors, un jour, face à face, je connaîtrai comme j'étais connu. Il y a une grande inéquilibre entre la connaissance que Dieu a sur nous et la connaissance que nous avons sur lui. Il est la volonté de Dieu, de Jésus, que nous soyons avec lui pour contempler d'une manière impossible avant sa gloire comme il nous connaît. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu ou sur la face du Christ. Ce verset commence par la création. La lumière, Dieu qui dit que la lumière soit, en Genèse chapitre 1, est aussi le Dieu qui fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance
de cette excellence, ces attributs, ce splendeur de Dieu dans nos cœurs. Et comment le fait-il? Il le fait sur le visage de Christ. Christ incarné et imaginable. Dieu est inimaginable. Mais la réflexion et l'image de Dieu sur la terre est imaginable. Nous n'avons jamais vu Dieu, et malheureusement, il n'y avait pas des appareils de photos pour qu'ils prennent une photo, et personne n'a même pas n'a dessiné Jésus. Mais quand même, on connaît des gens avec un nez et deux oreilles et deux yeux, et une certaine taille, plus ou moins normale. On imagine. Ça parle de ses cheveux, ça parle de sa barbe, ça parle de son dos qui a été déchiré, ça parle de sa tête qui avait du sang qui versait dessus. On ferme les yeux, on imagine. Et on imagine plus ou moins correct. Il est imaginable. Mais loin de la totalité de sa gloire, parce que Dieu avait dit à Moïse quand il insistait, « Oh Seigneur, montre-moi ta gloire. C'est pas possible que tu vois ma gloire. Si tu vois ma gloire, tu ne pourrais même pas exister encore. Tu seras déchiré en 1000 pièces. Parce que ma gloire est trop pour toi. Mais tu verras. Et nous verrons un jour, quand nous verrons tel que nous soyons. » En Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et cela ne nous sera pas encore été manifesté, mais nous savons que, c'est pas encore manifesté, c'est pas encore même imaginable, mais ce que nous savons, c'est que, lorsqu'il sera manifesté, la deuxième fois, nous serons semblables à lui parce que, nous le verrons tel qu'il est. Regardez encore un autre texte, Jean chapitre 17. Dieu a voulu envoyer son Fils qui avait une obsession, je veux pas dire ça péjorativement, ça c'était une obsession pure et élevé et magnifique, un grand désir qui était plus fort que toute souffrance qu'il pourrait subir, être avec nous. Pas simplement pour être avec nous, mais pour que, en étant avec nous, nous puissions voir sa gloire. Mais ce n'est que la moitié encore. Parce qu'il dit, à la fin du verset, « Tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Qu'est-ce qu'il veut que nous sachions ici? Expliqué dans le dernier verset, 26. « Je, ô Père, je leur ai fait connaître ton nom. » Et je continue. « Je le leur fera connaître aussi, mais ma raison c'est que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Et ça, c'est la troisième chose que Dieu, que Jésus veut. Il veut que les siens aiment comme le Père. Le mot amour, il n'y a aucun mot dans le dictionnaire français qui a été plus massacré que ce mot. Je veux qu'ils aient, pas qu'ils imitent l'amour du Père, mais qu'ils aient l'amour, que le même amour que le Père a pour le Fils. Ce que tu me donnes aura aussi pour le Fils. C'est merveilleux, mais quand on pense à ce que le Seigneur a fait pour nous, notre capacité de aimer est vraiment proportionnelle de notre capacité de réaliser notre absence de mérite de cet amour. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas être aimés, mais non simplement serons-nous aimés, nous avons déjà été donné la capacité de aimer. J'ai pas mis dedans parce que c'était juste après que j'ai pensé. Romains chapitre 5 où l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit est donné pour répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est quelque chose divine. Jésus disait dans ce verset, ce que nous venons de lire, comme le Père m'a aimé, Jésus disait aussi la même nuit, mais deux chapitres en avance, je vous ai aussi aimé. Comme le Père m'a aimé. Ça ne veut pas dire simplement que le Père m'a aimé, toi aussi il faut que vous m'aimiez. Non, de la même manière que le Père m'a aimé. Avec la même substance. Inconnaissable à ceux qui n'ont pas reçu cette substance par l'Esprit qui nous met dans le cœur. Avec cette même amour substantiel que le Père m'a aimé, je vous donne la capacité de le faire. Nous n'avons que la semence, ça commence. Dieu met en nous une semence d'amour qui vient de lui-même, et l'apôtre Paul prie afin que nos cœurs soient remplis de consolation, que nous soyons unis dans cet amour. Pas n'importe quel amour. Pas juste une conciliation les uns avec les autres. C'est quelque chose d'inconnaissable sans Dieu. C'est un don, c'est un mystère, c'est un miracle, c'est divin, c'est surnaturel, ce mystère de Dieu, qui est de savoir Christ. Et en Philippiens, Paul dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Cette saison de Noël. Pensez à ce mois comme le mois où nous allons viser notre raison d'être sur la planète. Visons la raison pour laquelle la joie avec quoi Jésus-Christ a été poussé, même dans le jardin de Gethsémané, avec cette horreur théorisé par Satan lui-même, un ange est venu pour le soutenir. Mais la joie d'être avec nous, pour que nous voyons et contemplons sa gloire dans un contexte d'un amour en égalité avec l'amour du Père, de ce qu'il avait en vue, et ce qui sera le cas pour nous. Et peut-être après 25 jours de réflexion, à la maison, si j'ai déjà votre email, je vais vous envoyer une petite pensée, j'espère que vous m'envoyez la vôtre. Si vous n'avez pas votre email et vous aimeriez faire partir, donnez-moi votre email et je vais me discipliner de tous les jours, pendant 25 jours, de envoyer une petite réflexion pour essayer de stimuler votre désir de fermer la radio. Fermez la musique, fermez la télé, allez dans le bois de toi ou quelque part, ou juste dans ta chambre, et écoutez le silence, c'est beau le silence. Et puis, lisez le passage, remerciez le Seigneur pour l'incarnation, remerciez le Seigneur d'avoir voulu, d'avoir été motivé avec un désir d'être avec. Non. Oh, se repentir pour ce désir si superficiel de notre part, d'être avec lui. Oui, une heure par semaine, ça va. Ça va pas pour lui. et veut être notre seul amour. Et tout ce que nous faisons, soyez dans le contexte de notre relation avec lui. Ma prière, c'est que nous ayons aussi un plus grand désir d'être avec Dieu, de voir sa gloire, et de aimer notre Seigneur avec l'amour que le Père nous accorde par son Esprit Saint.